Salut tout le monde et bienvenue à une autre édition de Sortie de zone. Mon nom c'est Jérémy Filosa. Nous voilà maintenant presque prêts pour le début des séries éliminatoires, étant donné que malheureusement du côté de la division canadienne, eh bien on va devoir attendre au milieu de la semaine prochaine. Mon nom c'est Jérémy Filosa. Bienvenue encore une fois au podcast Sortie de zone. Ceux qui sont autour de la table pour l'émission d'aujourd'hui, Simon-Olivier Larange de La Presse. Salut Simon-Olivier.
Salut Philo.
Jérémy Rainville du 98.5. Salut Jérémy.
Allô Philo.
Et Guillaume Lefrançois de La Presse aussi. Salut Guillaume.
Salut Philo.
Alors les gars, on va commencer avec l'aspect historique de la chose, puisque c'est la première fois depuis 1979 que le Canadien affronte les Maple Leafs en séries éliminatoires. D'ailleurs, je me suis retapé cette série-là pas au complet, là, mais les quatre matchs sont disponibles sur YouTube, soit dit en passant. Là, le Canadien a gagné cette série-là, quatre matchs à zéro.
Mais là, tu viens de vendre le punch.
Ah, maudite affaire. OK, ouais, c'est ça. Fait que là, ceux qui vont vouloir le regarder sur YouTube, je viens de vous donner le résultat final. Ou vous auriez pu faire Google, mais bon, ça, c'était une autre affaire. C'est plate un peu parce que les Maple Leafs, pendant longtemps, étaient dans la conférence de l'Ouest, donc on les affrontait jamais en série. Et dans les dernières années, on dirait que ça a toujours à donner que quand le Canadien avait de l'allure, les Maple Leafs n'étaient pas là et vice-versa. Donc c'est la première fois en 42 ans que les deux équipes vont s'affronter. Qu'est-ce que ça peut vouloir signifier pour l'histoire de cette rivalité-là et pour le futur de cette rivalité-là? Parce qu'on va se le dire, là, dans les dernières années, il n'y en a pas vraiment eu une.
Moi, personnellement, je pense que c'est bon pour le hockey canadien. Premièrement, c'est deux gros marchés qui s'affrontent, Toronto, Montréal. On parle même pas des équipes, là, mais deux gros marchés, point de vue de la Ligue nationale de hockey, qui s'affrontent. Moi, pour le côté historique, ça vient plus ou moins me chercher parce que je trouve que ça met tout le monde dans une drôle de situation de se replonger en 79 où le Canadien de Montréal avait une formation qui était dominante dans la Ligue nationale. Fait que donc, il faut comprendre que les temps ont changé et là, on arrive dans une situation qui est complètement différente. Tu sais, t'as les Leafs de Toronto qui ont un gros club puis le Canadien qui est le club négligé là-dedans. Fait que donc, d'utiliser l'histoire à travers tout ça, outre le fait que c'est bon pour les deux franchises de la Ligue nationale de hockey, qui sont parmi les trois premières, je pense, les plus rentables de la Ligue. Fait qu'à partir de ça, outre ça, pour moi, le côté historique, ben on fait bravo, on regarde les matchs sur YouTube, puis c'est ça qui est ça.
En fait, ça prendrait là comme trois ou quatre affrontements là dans les 5-6 prochaines années pour vraiment épicer cette cette
rivalité-là.
Ben,
il y a déjà là la rivalité, par contre, là. Oui. Tu sais, il y a déjà un beau quelque chose entre les deux, là.
Il y a quelque chose je pense que c'est plus historique qu'autre chose, par contre, parce que, tu sais, Toronto n'a pas nécessairement, c'est pas les Bruins qui ont eu Marchand, puis qui ont eu Lucic, puis qui ont eu Chara, puis les Maple Leafs des dernières années, on le sait, je veux dire, leur nouvelle identité, c'est une identité basée sur le talent offensif, la vitesse, et c'est pas vraiment une équipe qui a de joueurs détestables comme ça, si on veut, pour des partisans de l'autre équipe. Donc, moi, c'est plus là-dessus que je me demande à quel point que ça va le faire. En même temps, ils ont ajouté Wayne Simmonds, ils ont ajouté Nick Foligno. Donc, c'est sûr que c'est des joueurs ça, qui, là, pour cette dimension-là, qui peuvent en ajouter un peu. Moi, le seul bout qui m'intrigue un peu, je ne veux pas dire que ça me désole parce que laissons la chance au coureur, mais ces dernières années, les Raptors, les Blue Jays sont devenus des équipes super populaires à Montréal et c'est comme si c'était cette fracture-là, Montréal-Toronto, qui justement pouvait exister dans les années 70. Ça s'est un peu perdu aussi dans le sens où des gens d'ici ont de l'admiration. Puis c'est comme si ces espèces de lignes-là qu'il y avait à l'époque sont un peu plus floues maintenant. Donc, je sais pas si ça peut se prêter autant à une rivalité intense et qui va chercher les gens. Là, je sais pas.
Écoute, Simon-Olivier, je te laisse embarquer là-dessus, mais je vais renchérir là-dessus après, oui.
Ben en fait, je vais renchérir sur ce que toi-même t'as soulevé, le fait que ça prendrait quelques affrontements en série. Je suis absolument d'accord avec ça, dans la mesure où, après la fameuse série 79, dont peu de gens se ont des souvenirs. En tout cas, moi, mes parents se connaissaient même pas encore, fait qu'on s'entend que je peux pas parler longtemps de cette série-là. Mais après cette série-là, au début des années 80, les Maple Leafs sont passés dans l'association de l'Ouest et les Nordiques sont arrivés dans la Ligue nationale.
Exact.
Fait que le Canadien, sa rivalité naturelle, il l'avait eu jusqu'au milieu des années 90, comme on le sait. Après ça, le Canadien a eu des années de misère et au début des années 2000, il y a eu un premier affrontement contre les Bruins de Boston en 2002 quand le Canadien a gagné à l'arraché avec José Théodore dans les filets et a affronté les Bruins plusieurs fois dans les années suivantes. En plus, comme a dit Guillaume, alors que les Bruins avaient des joueurs qu'on adorait détester, qu'on adore encore dans le cas de Brad Marchand, qu'on soit les fans du Canadien ou de n'importe quel autre club de la Ligue nationale à part les Bruins. Fait que je pense qu'on a réussi à rebâtir ça, et c'est peut-être ce qui pourrait arriver avec les Leafs, mais plus à la longue, puisque pour l'instant, ben c'est sûr que, comme a dit Guillaume, il y a l'espèce de rivalité entre les deux villes, si on veut, peut-être un peu le clash franco-anglo, mais sinon, c'est pas une équipe qui a la formation actuelle des Leafs, c'est pas un historique avec le Canadien.
Non.
Mais je suis assez optimiste que ça va se construire au cours des prochaines années, peut-être avec cette série-là.
Ben, tu vois, mon fils, il suit les Blue Jays religieusement, mais les Maple Leafs, il les haït. Tu sais, il est pas capable. Fait que, mais tu sais, qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a pas vraiment. Ils mettent Montréal dans leur petite poche, là. On va se le dire, là. Ils ont un club de basket. Nous autres, on fait juste rêver qu'on a un club de basket. Ils ont un club de balle. Nous autres, on fait juste rêver qu'on va retrouver un club de balle. Et Toronto FC dépense tout le temps plus que le CF Montréal. Ils ont des joueurs étoiles. Le CF Montréal, c'est toujours, ben, on ramasse des gars, tu sais, à droite puis à gauche à moitié prix. Il y a juste au hockey où il y a encore une rivalité. Et même là, les joueurs les plus attrayants, les plus glorieux, jouent du côté des Maple Leafs et non du côté du Canadien.
Mais on a moins de cas de COVID.
On gagne là-dessus.
Mais ce que je voulais dire, c'est que...
Par exemple.
Et Simon-Olivier en a touché un peu, en a parlé un petit peu. Je pense que c'est entre les villes aussi, puis je pense que c'est entre l'Ontario et le Québec. Il y a quelque chose, parce que nos collègues ontariens, puis j'en faisais référence tantôt à Guillaume avant qu'on commence l'enregistrement, tu sais, je veux dire, du côté de TSN, Greg Button fait une sortie publique à la Eddie Creishman pour dire... écoute, moi, Greg Button, c'est un bonhomme que je respecte énormément. Je pense que sa vision du hockey, comment il analyse tout ça, je pense que c'est un gars hyper... C'est une belle référence pour moi. Et là, de le voir être aussi drastique dans son commentaire, et je vous explique un peu ce qu'il a fait, c'est qu'il arrive, il dit, tu sais, moi, sincèrement, j'ai mis le Canadien pour être premier dans la division Nord. Et il dit, ils ont joué deux semaines, puis après, ils ont arrêté. Fait que là, je sais même pas s'ils vont en gagner une contre les Leafs de Toronto. Toronto va les varloper, puis là, il part. Là. Je vous dis, c'était Eddie Creishman. Premièrement, c'est la première fois que je le voyais aussi intense.
Okay.
Et deuxièmement, je me suis dit, OK, qu'est-ce qu'on veut faire là, avec tout ça? On veut, tu sais, d'un autre côté, j'écoutais Sportsnet aussi, on veut créer une vibe. Tu sais, je montrais tantôt à Guillaume sur Instagram, on a mis une photo, TSN a mis une photo de Joe Thornton avec le chandail des Leafs qui a la Coupe Stanley dans les mains. Tu sais, on veut créer quelque chose. Et j'espère pour eux que ça va marcher.
Ouais.
Parce que si ça marche pas, il va t'avoir une gang de déçus en Ontario, c'est clair, là.
Ah non, écoute, eux autres.
Et ils seront pas contents, là.
Non, non.
Mais ça, je leur souhaite,
ça,
honnêtement.
C'est ça. Ils vont te jouer au Centre Paul Sauvé ou, les gars, le Canadien a un congé assez long, là. D'ailleurs, aujourd'hui et hier, les joueurs du Canadien se sont fait vacciner, tout ça. Il n'y a pas eu d'entraînement. Donc, on leur a permis de se reposer. La série ne commencera pas avant jeudi, mais à quel point le congé actuel pèse dans votre analyse et vos prédictions possibles pour cette série-là?
Ben, justement, si le Canadien n'avait pas eu ce congé-là, je serais pratiquement en train de parler comme Craig Button. Je pense pas que j'aurais donné grand-chance aux Canadiens. Je pense qu'un entraîneur comme Dominique Ducharme est capable quand même d'utiliser ce congé-là de façon efficace. Tu sais, dans le fond, ils reprennent l'entraînement samedi, donc ils vont avoir samedi, dimanche, lundi, exact, mardi, mercredi. Tu sais, c'est 5 jours que ça leur donne là-dessus. Ils vont probablement sauter une journée, là, peut-être une journée là-dessus qui n'iront pas ça à glace. Mais ça va leur donner, dans le pire des cas, 4 journées de qualité sur la patinoire pour vraiment revenir à la base, pour que Ducharme fasse un peu d'enseignement, ce qu'il n'a pas vraiment pu faire sur la patinoire depuis qu'il est en poste. Donc, je pense que oui, ça va jouer, ça va aider. Je pense quand même que Toronto gagne cette série-là, mais ça va être beaucoup plus compétitif grâce à la pause.
Simon-Olivier?
Ben oui, je pense carrément que le Canadien vient de s'acheter au moins une victoire dans cette série-là. En fait, je dis pas qu'il n'y en aurait eu aucune, mais je pense qu'il vient de peut-être s'en acheter une ou deux de plus. Parce que, en fait, on l'a vu, le Canadien sans repos contre l'édition des Leafs en santé, ce que ça a donné. Et le Canadien n'était pas dans le coup du tout, là. Fait que même si c'est on efface les Leafs pour les séries éliminatoires, ben, avec le même effectif, ça aurait été les mêmes résultats. Puis je pense que ça va donner un bien meilleur spectacle. Et que pas les partisans vont en avoir beaucoup plus à se mettre sous la dent avec ce congé-là. Fait que c'est un peu, en fait, ce que je trouve ça un peu long dans la mesure où on perd un peu le timing, si
bien
on
sûr
veut. Tu sais, là, présentement, bon, là, pour les amateurs de hockey qui aiment les matchs ailleurs, ça commence très bientôt. Ça commence demain, en fait. Les Bruins Capitals, ça va être une des bonnes séries du premier tour. Fait qu'on va en avoir à regarder, mais pour les fans du Canadien, on perd un peu le timing, mais en bout de ligne, je pense que le gain est complet pour le Canadien. Peut-être plus, en fait, probablement pas mal plus que pour les Leafs.
Moi, de mon côté, je dirais, c'est drôle parce qu'à Bonsoir les sportifs, on a décidé d'attendre pour faire les prédictions pour cette série-là. Tu sais, je sais que tout le monde a déjà son idée, mais moi, je me suis dit, on va attendre à mercredi. On va attendre à mercredi parce que je veux voir officiellement le retour de tout le monde avant de porter jugement. Tu sais, on a beau dire, Dano sera de retour, ben non, lui va être de retour, mais il faut attendre. Je veux attendre un certain temps et se donner ce laps de temps pour voir que tout le monde sera là à 100%. Par la suite, une fois qu'on aura la formation complète, pour moi, ce sera plus facile de tirer des conclusions là-dessus. Évidemment, tout le monde a son idée, mais clairement, je pense que ces journées-là seront c'est avantageux pour le Canadien. Mais il va falloir ouvrir la switch, là. Il va falloir ouvrir l'interrupteur. Tu sais, t'as beau avoir les gars qui sont de retour, mais c'est une mentalité qui est complètement différente. Mais tu sais, on a des signes qui, pour moi, sont encourageants. Si on prend entre autres le texte de Tyler Toffoli sur The Players Tribune hier, où Tyler Toffoli disait, moi, je suis ici pour gagner la coupe. Mm-hmm. J'ai l'impression que tu t'avances pas ça si t'es tout seul sur ton île déserte en plein milieu du vestiaire, tu sais. Il doit avoir quand même tu sais, il est pas seul dans cette histoire-là.
Il y a des gars qui y croient avec
lui. C'est ça l'objectif. Tu sais, peut-être que la totalité des gens au Québec ne croient pas que le Canadien peut gagner. Moi, on n'est pas dans une histoire de croyance d'allumer des lampions, mais je me dis, quand j'entends ce commentaire-là, c'est parce qu'à l'interne, il y a une couple de gars qui doivent se dire non, on est capable de faire ça. Fait que donc, c'est pour ça que je te dis, c'est bon, ça donne du temps à tout le monde, puis le timing est excellent. D'ailleurs, pour sortir le texte de Toffoli hier, je pense que le timing est très bon. Fait que donc, laissons mijoter tout ça et voyons comment ça va se diriger, mais clairement, c'est avantageux pour le Canadien.
Ben, moi aussi, je suis d'accord avec vous. Là, je pense que, tu sais, j'aurais peut-être prédit un 4-0 ou un 4-1, puis là, avec cette pause-là, je dirais peut-être que le Canadien est capable d'aller chercher deux victoires. Parlons un petit peu de ce qui va se passer sur la patinoire, puis je sais qu'on va y revenir la semaine prochaine parce qu'on aura une autre émission avant le début de la série entre le Canadien et les Maple Leafs. Mais si tous les joueurs de centre sont en santé, qui sont vos quatre joueurs de centre que vous habillez, que vous utilisez dans le fond? Ils peuvent être habillés aussi et ne pas être au centre, mais qui sont vos quatre joueurs de centre?
On va le régler tout de suite. Là. Bon, premièrement, Dano Suzuki, c'est réglé.
Oui.
Je pense que Jake Evans, avec sa fin de saison, s'est assuré une place aussi. Est-ce qu'il va être nécessairement au centre à temps plein? Je ne sais pas parce que, tu sais, si on a cette question-là, c'est parce que Dominique Ducharme a 5 centres. Est-ce que tu es obligé, dans ce cas-là, d'en avoir juste 4 et d'en laisser un cinquième de côté ou justement, tu prends ce luxe-là pour jouer, tu sais, faire jouer un de ses centres? Dominique Ducharme en a parlé que c'était une possibilité de faire jouer un des centres à l'aile. En série, c'est vraiment pas une mauvaise chose à avoir si tu as un blessé,
Mais qui sont tes 4 qui vont jouer au centre?
Qui vont jouer au centre. Moi, je pense justement qu'avec sa fin de saison, Jake Evans doit jouer au centre. Je pense que Lekkonen, Evans, Byron, c'est un trio. C'est une chose et tu dois leur donner une chance de continuer en série avec ce qu'ils ont fait. Donc après ça, la décision est entre Stahl et Kotkaniemi. Et regardez, je comprends que Stahl est très invisible, tout ça, mais moi j'irais avec Stahl au centre et Kotkaniemi à l'aile dans l'espoir qu'il se replace à cet endroit-là.
Je suis assez d'accord avec Guillaume là-dessus. Donc moi je mets Suzuki, Dano, Stahl et Jake Evans comme joueurs de centre. KK et Cole Caulfield commencent sur la passerelle pour le match numéro 1. Là, je le sais, là on entend la bombe, l'hécatombe.
OK, mais on va en parler parce que c'est une des questions du public, la question sur Caulfield.
Ah oui? OK.
Complète. au moins sur KK.
Mais entre autres, ce que je veux dire sur Jesperi Kotkaniemi, je pense qu'un peu un petit choc électrique, un petit peu de frustration, vous dire hey, c'est parce que je veux être là-dedans, parfait, démontre que tu as le goût de participer à tout ça parce que je pense que lorsqu'on est allé chercher Rick Stahl, c'était pas pour l'amener puis qu'il marque un but en prolongation, c'était pour l'avoir justement en série. Je reprends les propos de Bruno Gervais qui, lorsque le Canadien a officialisé sa place en série de fin de saison à la fin des trois périodes réglementaires, Bruno Gervais dit la chose que j'ai vue, c'est Rick Stahl qui se lève debout, qui passe à travers 3-4 gars, puis s'en va voir Corey Perry, puis il donne un high-five pour dire « Hey, on est là ». Fait que donc, c'est des gars qui sont en fin de carrière et d'avoir l'opportunité d'être en série de fin de saison. Est-ce que ça voudra dire pour ces gars-là qu'ils amèneront quelque chose de différent? Je le souhaite, mais je pense qu'on va faire le test. Est-ce que ça va marcher? Je le sais pas, mais on va faire le test pour avoir Eric Stahl pour débuter, selon moi, oui.
OK. Simon Lier?
Moi, mon choix et ce que je crois qui va arriver sont pas raccord. Mon choix à moi, c'est une autre chance à Jesperi Kotkaniemi. Je sais que on a tous vu sa fin de saison, peut-être même sa deuxième moitié de saison, que ça a pas tout à fait marché. Mais si on lui cherche des excuses, ça a été les portes tournantes sur ses ailes. Il y a pas eu de constance, etc. Je pense qu'avec le retour des blessés et le donner de bons ailiers, Kotkaniemi peut rendre un fier service aux Canadiens. Surtout que si les deux premiers trios des Leafs sont vont forcément être contrés par les trios de Dano et ou Suzuki ou Evans, donc deux de ces trois-là, Kotkaniemi pour avoir un match-up entre guillemets plus favorable, je pense qu'il y aura une chance. Cependant, ce serait le degré zéro de la corde. C'est-à-dire, si au premier match, le Canadien a une contre-performance et Kotkaniemi ne contribue pas, je rentrerai Starr. Cependant, ce que je crois qui va arriver, c'est évidemment qu'on va habiller Eric Staal. Et là, après ça, à savoir ce que Kotkaniemi serait à l'aile ou dans les gradins, je pense qu'il y a beaucoup de choses dans l'air, mais je suis pas mal persuadé que Staal va être là et que ce sera pas mon plan, moi.
Mais tu vois, Simon-Olivier, si exemple, tu arrives et tu mets Kotkaniemi à ton premier match, tu lui donnes pas de marge de manœuvre, puis tu le sors après un match, tu viens de le perdre carrément. Tandis que si tu le fais commencer dans les estrades et que ton club va pas bien, là, tu trouves une histoire, tu fais rentrer le jeune il vient avec l'impression de sauver un peu, d'aider, et là, t'as moins de chances de le perdre. Tandis que si tu donnes pas de marge de manœuvre au premier match puis tu le sors tout de suite après, oublie ça, tu l'as perdu pour l'ensemble des séries, j'en suis convaincu de ça.
Ouais. Les gars, faut parler un petit peu de Carey Price parce que, et je sais que Simon-Olivier, t'as pas vraiment aimé la tournure de ma question. Moi, je l'ai formulée comme suit. Est-ce que Carey Price va racheter sa saison cette année dans cette série-là contre les Maple Leafs de Toronto? Puis là, c'est pas est-ce qu'il peut, parce qu'on sait qu'il peut, ça c'est certain, mais est-ce qu'il va racheter sa saison avec cette série-là? Puis Simon-Olivier, tu pourras peut-être changer un petit peu la formule de la question pour ton approche, mais j'aimerais entendre vos opinions, les gars.
Je vais commencer, OK? Je fais ça rapidement. Moi, je dis, est-ce qu'il peut?
Non, est-ce qu'il peut? Est-ce qu'il va? Parce qu'il peut, on sait qu'il peut. Est-ce qu'il va?
OK, là tu me demandes d'être un peu Madame Minou et de voir dans l'avenir, savoir comment Carey Price va réagir. Clairement.
Dans ta tête, là, est-ce qu'il va?
La réponse est oui. Okay. La réponse est oui. Je pense que si on regarde ses statistiques au courant des trois dernières années en série de fin de saison, il était un joueur efficace. Est-ce que ça va marcher et faire gagner l'équipe? Tu sais, l'an passé, contre les Flyers de Philadelphie, Price a été très, très solide, mais il y a eu quoi? Trois ou quatre buts qui ont été déviés sur un bâton, frappe l'épaulette d'un autre. Tu sais, il y a de la malchance là-dedans. Ouais. Fait que, tu sais, même si lui est bon, faudra que cette équipe-là soit extrêmement chanceuse pour être capable de poursuivre son processus. Fait qu'à partir de là, il peut le faire, il va le faire, mais est-ce que ça aura le résultat que tout le monde s'attend? Ça, j'ai aucune idée, parce que ça prend de la chance, puis ça, malheureusement, j'ai pas commencé à analyser la chance.
Non, exact. Le problème avec l'idée de racheter sa saison, c'est que j'ai l'impression que les moins bonnes performances de Price des dernières années ont peut-être comme fait baisser un petit peu les attentes. On dirait que moi personnellement, s'il cause pas la défaite à ce point-ci, ça va être pratiquement de
mission accomplie.
Mission accomplie, exact. Wow. Parce que c'est plus le gardien qui cette année, on l'a pas vu du tout transporter son équipe à part un match à Edmonton en début de saison, ça a été tout. Donc, tu sais, c'est pour ça, s'il excède les attentes, ben tant mieux. Justement, il l'avait fait en série l'an passé, surtout contre Pittsburgh. Là, je pense que contre Pittsburgh, ses succès en début de série avaient vraiment donné le ton. Mais c'est ça. Mais par contre, tu sais, oui, c'est ça, je te rejoins tout à fait. En série, depuis, tu dis trois dernières années, mais en fait, même depuis les séries de 2014. Là, en 14, il était excellent. En 2015, l'attaque marchait pas. Ils sont rendus au deuxième tour, l'attaque marchait pas, lui, il était excellent. 2017, contre les Rangers, il était bon. L'année passée, il était bon. Donc, tu sais, historiquement, il est bon en série. Il va arriver reposer. La seule petite crainte que j'ai par rapport à ça, par rapport à la question du repos, c'est qu'il revient d'une commotion cérébrale. Et ça commence à faire quand même quelques-unes qu'il y a. Puis, je veux dire, on en parle souvent pour les attaquants, pour les défenseurs, tu sais, à quel point les commotions ont un impact sur eux. Mais pour un gardien, c'est sûr que ça peut jouer un petit peu aussi quand t'en as plusieurs. Donc, tu sais, est-ce que ça peut éventuellement avoir un impact sur ses performances?
Et si je m'appelle Wayne Simmons, il y a des chances que je me promène devant le filet de Carey Price. T'sais, il y a des chances que je l'accroche. Fait que donc, veut pas, encore là, c'est un facteur qu'on peut pas déterminer. Sa santé, les blessures, on peut pas le déterminer, ce qui s'en vient.
Simon-Olivier?
Bon, là, c'est sûr qu'on m'a jeté dans la controverse pour, à propos de la formulation. Juste pour expliquer aux gens, on s'écrit avant de commencer l'épisode. Puis Jérémy, donc, qui nous a proposé à la question à savoir est-ce que Carey Price peut racheter sa saison, c'est que moi, je nuançais en savoir est-ce qu'il y a complètement une saison à racheter. On s'entend, le Canadien n'a pas eu une bonne saison. On va se le redire. Carey Price n'a pas eu une très bonne saison, mais n'a pas eu une très mauvaise saison. Même quand on regarde sa carrière, tu sais, il y a eu évidemment une saison infiniment meilleure, mais il y en a eu également des moins bonnes. Price a eu à peu près les mêmes chiffres que Jake Allen, dont on s'est pris d'affection. Et depuis le 1er mars, en 13 matchs, Carey Price, c'est quand même une fiche de... En fait, je veux dire en 12 matchs, parce que juste une période contre Edmonton dans sa dernière rencontre, c'est une fiche de 7-3-2, 916 de taux d'efficacité, 2.16 de moyenne. On rentre dans la zone de très bons chiffres. Et bon, là, évidemment, on sait pas pour ce qui est du repos et de la commotion et tout, mais comme on l'a dit, il y a son historique en série, tout ça, fait que... Tu sais, est-ce qu'il va racheter sa saison? Je pense s'il peut juste poursuivre là où il a laissé quand il s'est blessé au mois d'avril, ben ce serait déjà une très bonne chose pour. En fait, ce serait pas juste une très bonne chose pour le Canadien, c'est un impératif pour le Canadien parce que n'importe quoi en bas de ça, et je pense que le Canadien fera pas le poids.
Ouais, donc, mais Price
l'a racheté, je pense que oui.
Mais Price, Smolvier, tu sais, c'est le mal aimé. Je veux dire, écoute, à bonsoir les sportifs, les gens nous disent mettez Allen, même Philo, t'es le premier à dire mettez Jake Allen, pas Carey Price, mais à travers les bonnes statistiques, moi j'ai l'impression que ce gars-là doit être là pour donner confiance à tout le monde. Puis donner confiance, c'est si jamais ça a de l'air facile sur la glace, qui finit pas comme ce qu'on a vu de Frédéric Anderson contre les Sénateurs d'Ottawa, là, qui finit pas à faire des 360 en essayant d'arrêter la rondelle, que c'est facile, qui est stable, qui est calme. Là, ça va donner de la confiance à l'équipe, et en même temps, ça va mettre des points d'interrogation chez l'adversaire, chez les Leafs de Toronto. Mais si tu sens qu'il se bat sur chaque lancé, puis que oui, il est capable de faire des arrêts spectaculaires, un 2 contre 1, il va sortir le bloqueur, ça va arriver, ça. Mais c'est sur des arrêts de routine, faut que ça ait de l'air facile, faut qu'il y ait de l'air en plein contrôle. Et c'est ça qu'on n'a pas vu de lui cette année. On a vu des gestes spectaculaires, mais c'était tout le temps extrêmement difficile. Finissait à l'extérieur de son filet, faisait une mauvaise sortie à l'extérieur de son filet. Fait que, tu sais, il y a
de toute façon, Price, quand c'est pas spectaculaire qu'il est à son meilleur.
Parce ben oui, quand il est plat, il est très bon. Là.
C'est ça. Techniquement, il est tellement bon, tu sais, que c'est ça. Mais quand tu le vois nager dans son demi-cercle, c'est là qu'il est en difficulté. Mm. C'est là quand il se met à se laisser déporter d'un côté puis de l'autre. Oui, ça met la table pour des arrêts spectaculaires, là, mais c'est pas la bonne version de Price.
Écoute, tu disais que Price était le mal-aimé. À Montréal, là, c'est pas compliqué. Si tu gagnes un gros salaire ou t'es un des meilleurs salariés de l'équipe, tu fais pas un job, c'est sûr que tu te fais crucifier. Comme Brisebois à l'époque, puis plusieurs autres.
Et pourquoi toi, tu veux le mettre sur la liste de repêchage pour que ça en aille avec le Kraken?
Ah, mais c'est sûr que je veux le mettre sur la liste de repêchage parce qu'écoute, on se casse la tête pour trouver de la place sur la masse salariale.
Ah, okay.
Si jamais t'es capable de... Pour moi, tu sais, tu peux pas revenir l'année prochaine avec et Weber et Price. Il faut que tu essaies de te débarrasser d'un de ces deux contrats-là. Mais ça,
ça arrivera pas.
Ben non, on aime ça de même. Nous autres, on joue avec des contrats. On accroche les contrats puis on dit, toi, t'as un contrat de même, tu joues. T'es pourri, ouais. Mais ça fait rien. Contrat dit que t'es bon, fait que tu joues pareil. Ça, c'est winner en tabarouette.
On se parlera après série.
Jake Allen a remporté le trophée Jacques Beauchamp. Faut le mentionner quand même. Cette semaine, là, c'est arrivé entre nos deux émissions. Donc, bravo à lui. De toute façon, on l'avait dit à plusieurs reprises à sortie de zone que c'était quasiment écrit dans le ciel qu'il allait le gagner. Puis juste pour compléter sur les gardiens, je sais pas si vous avez vu la séquence de Ryan Miller lors de son dernier match dans les estrades avec ses parents. C'était quelque chose en tabarouette.
Ouais, hein.
Tu sais, Ryan, moi, j'ai toujours apprécié, là, les gars, vous le savez comme moi, là, on a eu la chance de l'interviewer à plusieurs reprises quand il était avec les Sabres. Vraiment un chic type, vraiment gentil. Donc, des fois, on oublie que les gars, c'est des humains. Hein? Puis quand on a vu, tu sais, pas un moment facile pour lui, puis ses parents étaient là. Donc, je trouvais que c'était un très, très beau moment. Allons-y avec nos 6 défenseurs maintenant. Peut-être un peu plus rapidement que le dossier des gardiens, si on veut se rendre à la fin de l'émission. Mais vos 6 défenseurs...
Ben, en fait, si on veut y aller rapidement, allons-y avec les 5-6 parce que je pense que la cause est pas mal entendue pour Sherrod Weber.
Il y a des images de lui qui ont circulé sur les médias sociaux avec un bandage sur une main.
Ouais.
Puis hier, il tirait seulement d'une main aussi à l'entraînement.
Ouais, ben
ça
c'est
fait
ça,
beaucoup jaser.
C'est ça, exact. C'est sûr, ce bout-là est dur. C'est que ce bout-là est dur à évaluer. De toute façon, je pense qu'on n'est pas personne ici est médecin ni n'a pas évalué Weber. Est-ce qu'une semaine c'est assez pour s'en remettre? Je ne sais pas. Mais disons que dans la mesure où il est en santé, c'est plus de régler le troisième duo. au mérite, si on y va purement au mérite, Kulak-Romanov, Kulak, on le sait, là, il y a ses hauts et ses bas, mais de façon générale, comme défenseur de troisième duo, j'ai pas de problème avec. Romanov, ça a été difficile comme fin de saison, mais je pense que c'est un gars qui a la fougue et le style pour aller en série s'il peut bien canaliser son énergie. Le seul problème avec ça, c'est que si effectivement les deux premiers duos en haut sont comme je les présente, Kulak-Romanov, c'est deux défenseurs que Ducharme n'aime pas voir jouer à droite. C'est deux gauchers naturels. On sait que Romanov a quand même eu l'habitude de jouer à droite en Russie, et mais que visiblement, c'est pas un bon fit pour Ducharme ici à ce point-ci dans sa carrière.
Un défenseur recru.
Ben c'est ça, exact. Ben en tout cas, du moins on pensait pas que ça l'était parce qu'il avait l'habitude de le faire, mais finalement. Puis c'est vrai que je me souviens que dans les premiers matchs où Ducharme avait remis Romanov à gauche, ça paraissait, ça avait fait une différence. Il était mieux, mais là. Même à gauche, il en a arraché en fin de saison. Donc, mais bref, c'est ça. C'est là que je me pose une question, sauf qu'en même temps, est-ce que tu débarques un de ces deux gars-là pour mettre à la place Merrill ou Gustafsson juste parce
pour
que
moi,
l'autre
c'est
est
des
pas
joueurs, c'est des joueurs de profondeur, les deux derniers.
Moi, quand tu dis que Romanov a eu de la difficulté à gauche, même à gauche, je dirais même Raymond Bourque aurait eu de la difficulté avec Merrill, honnêtement. c'était très, 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 très difficile pour Merrill. Et j'ai beaucoup de respect. Il joue dans la Ligue nationale. Moi, je joue pas là. Mais clairement, pour lui, c'était difficile. Bon, disons que c'était difficile. Gustafsson, pour moi, n'est pas une option. Kulak est la seule option valide. Si tu veux gagner, faut que tu ailles avec. Tu dois avoir Kulak dans ta formation. Je mettrais Kulak à droite, je mettrais Romanov à gauche, puis on dit faites ça simple. Puis, savez-vous quoi? On a beau dire faites ça simple, c'est qu'ils n'auront pas le choix de faire ça simple. Ça va passer assez vite qu'il n'y aura pas grand folerie que tu peux faire. T'sais, tu peux pas te mettre à reculer. Moi, première chose que je suis plus capable là, durant la saison, là, c'est de voir les défenseurs faire des sorties de zone en reculant, en essayant la grande passe. Là, ça arrivera pas parce que tu vois quelqu'un dans ton visage tout de suite. Fait qu'il va falloir que ça soit extrêmement rapide. Et ça peut pas être rapide avec Merrill, ça peut pas être rapide avec Gustafsson. En fait, c'est trop rapide avec Gustafsson. Fait que donc vraiment Kulak, Romanov pour moi c'est le bon duo. Puis je suis prêt à être patient avec eux autres là. Quitte à avoir un petit peu moins de temps de jeu parce qu'on est en série, mais je vais être patient avec eux, ça c'est sûr.
Simon Olivier.
En fait, j'ai pas grand-chose à rajouter parce que je pense qu'il y a consensus sur le top 6. Moi, en fait, je suis un peu éberlué en voyant des joueurs comme Merrill et Gustafsson. Tu sais, on disait Merrill c'était probablement le meilleur défenseur des Red Wings. Est-ce que ça nous dit à quel point les Red Wings sont dans le trou? Que Merrill a eu de si bons chiffres avec eux. Et comment Eric Gustafsson a fait 60 points il y a 2 ans? Je veux dire, on le voit là, son flair offensif, mais ce gars-là est un accident de train en défense. Là. C'est une catastrophe. Alors, je pense que le Canadien peut juste croiser les doigts que son reste en santé et que Weber puisse jouer parce que disons que les fameuses options de profondeur c'est pas le grand
non,
luxe présentement.
Non,
pour vrai moi à ce compte-là, tu sais, de ce que j'ai vu particulièrement de Gustafsson puis peut-être même de Merrill, je me demande si Ouellet serait pas un meilleur septième que ce qu'on a
et
vu.
Et Ouellet était
autres,
là dans la bulle l'année passée, il a fait la job.
Là, par contre, ils l'ont rétrogradé à ce que je sache.
Oui, hein? Mais là en série toutes ces limites là sauf là donc
puis dans le fond c'est mieux, tu sais, il joue en bas.
Ben c'est ça, il rétrograde pour finir à Laval, mais après ça en série plus de plafond, plus de limite de rappel, plus rien, tu mets qui tu veux.
Bon, qu'est-ce que ça va prendre dans cette série-là pour que Ducharme et Bergevin obtiennent des prolongations? Et puis la question est ouverte, là, ça peut être n'importe quoi, mais qu'est-ce qui doit arriver?
Ben clairement, c'est une mauvaise question que tu poses. C'est pas qu'est-ce que ça va prendre dans cette série-là, ça va prendre dans cette série-là, dans l'autre série après.
Non, mais
ça va prendre plus que cette série-là.
Je parle de cette série-là. Donc pour toi, il faut qu'elle gagne.
Ah, clairement. Je veux dire, écoute, tu ne peux pas, puis là, soyons logiques, puis on va ressortir les enregistrements, tout ça, tu ne peux pas arriver, puis je le sais que tout le monde prévoit une défaite du Canadien face aux Leafs de Toronto, mais je répète, tu ne peux pas, en tant que directeur général, avoir fait des gestes de je dis pas de panique, mais disons qu'ils sentaient la turbulence en congédiant tes coachs, en congédiant ton coach de gardien de but, en disant que les objectifs étaient élevés, en disant que j'ai confiance, que je me mets la tête sur la bûche et de faire sortir au premier tour sans aucune conséquence. C'est impossible. Si c'est le cas, ben il y a quelque chose que je comprends pas au hockey, puis il va falloir poser des questions pour avoir des réponses. Fait que donc, à partir de là, t'es obligé, condamné à gagner contre les Leafs. Arrange ça comme tu veux, faut que tu gagnes.
Et est-ce que les deux sont interreliés absolument, Ducharme et Bergevin?
Moi, je pense pas. je sais que c'est rare qu'un DG saute et que l'entraîneur-chef reste, mais c'est quand même déjà arrivé. Claude Julien l'avait vécu à Boston quand Peter Cherelly est sauté, Don Sweeney est arrivé. Ça a été inconfortable. On se souvient des bilans de fin de saison chaque année qui étaient un drame, mais il restait pareil. Il restait pareil parce que peu importe pourquoi. Mais bref, ça s'est déjà vu. Et puis, oubliez pas qu'à Montréal, là, tu sais, où le bassin de Cardia est quand même moins grand parce que la question de la langue est importante, ben là, après ça, Dominique Duchamp, je m'excuse, mais il est dans la liste des bons futurs jeunes entraîneurs. Tu sais, je veux dire, si on recule avant le changement d'entraîneur à la fin février, on demandait c'est qui les futurs bons entraîneurs québécois qui attendent leur chance. Ben c'est Dominique Duchamp, c'est Pascal Vincent,
c'est Joël.
C'est ça, t'as Joël Bouchard, t'as Benoît Gros et t'as André Tourigny. Donc, tu sais, ça tournait autour de ça. Dominique Ducharme était un de ces gars-là. Dominique Ducharme a eu une super belle carrière dans le junior. Et puis, jusqu'ici, comme adjoint à Montréal, ça allait bien quand même pour lui. Donc, tu sais, je veux dire, il faisait partie de ces candidats-là. Maintenant, c'est ça. Donc, c'est pour ça que je réglerais le cas de Bergevin avant de dire que ça condamne Ducharme.
Okay. Est-ce qu'il faut absolument qu'il gagne cette série-là? Ou est-ce qu'une série pour bien Bergevin? Bataillée, serré peut les sauver.
Je le vois mal survivre à une élimination rapide avec tout ce que Jeff Molson lui a permis de dépenser l'automne dernier. Jeff Molson a signé au-dessus de 130 millions de dollars en contrat.
Sans personne dans les estrades.
Sans personne, exact.
Donc, mais il faut le mentionner, c'est majeur. Là. Personne pour acheter un billet. Et on donne, tu as dit combien, 130 millions?
130 millions en contrat l'automne dernier. Et tu payes Claude Julien dans le vide aussi.
Et tu payes tout ça. Et là, tu arrives, puis même si tu t'es éliminé en 7, en deuxième période de prolongation, s'il y a quelqu'un qui me dit à moi, c'est ça, des objectifs élevés, excusez-moi, mais là, je comprends plus rien.
Simon-Olivier?
Moi, je vais m'inscrire un peu en faux à ce que vous dites. Je pense que la connexion Molson-Bergevin est tellement solide qu'une bonne bataille, comme tu l'as dit, Philo, je pense que c'est quelque chose qui pourrait suffire à sauver Bergevin. Pour la raison que vient d'évoquer Jérémy Rainville, les dépenses sont serrées là, chez les Canadiens. On vient de vivre une saison au complet avec 0$ de revenus au guichet. Les dépenses ont été les mêmes. Et Marc Bergevin gagne, les salaires des DG sont pas nécessairement publics, mais gagne quelques millions. Est-ce qu'il lui reste juste une année de contrat? Est-ce qu'on va vouloir payer un Bergevin à qui on donnerait des tâches connexes, genre recruteur professionnel, 2-3 millions, et embaucher un autre DG à ce moment-ci, alors que les coffres sont probablement à sec? Je dis pas qu'on va le garder pour ces raisons-là, mais je pense que... voyant ce que Bergevin a traversé au cours des années, je serais pas surpris qu'on nous serve là. Oui, mais on a eu une bonne bataille, c'est un groupe qui traversait une année particulière, etc., etc. Je suis pas prêt à tout de suite annoncer la fin de Bergevin si jamais le Canadien perd au premier tour, à tout le moins s'il se défend bien contre Toronto.
Moi, Simon-Olivier, j'aimerais juste ajouter, tu as raison de mentionner que la relation entre Jeff Molson et Marc Bergevin, elle est extrêmement solide. Ça, moi, je me questionne pas là-dessus. Où je me questionne, c'est la relation entre les partisans et Jeff Molson. Tu sais, Jeff Molson, lui, là, son objectif numéro un, c'est de vendre des billets. Logiquement, là, c'est ça, c'est de vendre des billets, il y a une business. Et si jamais les gens, parce qu'on sent de la frustration, et si jamais ils décident de prolonger Marc Bergevin, parce que tu n'entames pas une autre saison avec quand il reste juste un an de contrat à ton DG, habituellement, c'est pas ça qu'on fait. Fait que si on décide de prolonger Marc Bergevin et que cette équipe-là ne passe pas le premier tour, et je pense que ça sera la folie furieuse. Fait que est-ce que ça va effriter la relation entre les partisans et l'organisation? Je pense que c'est ça qu'il faut que tu priorises avant de penser l'amitié puis 3-4 millions que je dois avoir à payer dans le vide. Je pense qu'il y en a payé beaucoup d'argent dans le vide. D'ailleurs, on peut en parler avec Carl Osner encore une fois.
Oui. Sauf qu'il y a des années dernières aussi qu'ils n'ont pas dépensé au maximum, fait que ça compense un peu, mais peu importe. Juste une petite note comme ça, là, on n'en débattra pas, mais pour ceux qui sont des adeptes de paris sportifs, comme moi, le Canadien est la deuxième équipe la plus négligée pour remporter la Coupe Stanley à 28-1. Il y a seulement, en fait, le Nashville qui est plus loin derrière à 35-1. Les Jets et le Canadien, en fait, les deux sont à 28 pour 1. Les favoris, c'est Colorado à 4,5 pour 1 et Vegas est deuxième à 5,5 pour 1. Je ne sais pas si c'est représentatif.
Toronto est 3, je pense.
Je ne l'ai pas noté, là, mais non, je ne pense pas. Je pense qu'ils sont comme 4e ou 5e.
À TSN, ils disaient 3.
Ils disaient 3.
Ouais, c'est ça.
Eux autres, ils font leur propre projection locale, c'est ça. Bon, la Ligue nationale a-t-elle pris la bonne décision d'attendre jusqu'à jeudi de la semaine prochaine pour débuter cette série? Et moi, si je suis une équipe canadienne qui est dans les séries présentement, je ne suis pas content. Parce que il y a une seule division dans laquelle on va être obligé de jouer deux matchs en deux soirs dans la première ronde des séries, c'est dans la division canadienne. Toutes les autres séries, ils vont avoir une journée de repos entre chaque match. Et nous, on est obligé d'attendre après les matchs Calgary, Vancouver, qui ne veulent rien dire. D'ailleurs, on en a placé un, je crois, en après-midi la semaine prochaine.
Deux en après-midi, je pense.
Ouais, c'est ça. J'ai de la misère à comprendre pourquoi il fallait attendre jusqu'à jeudi puis de se taper des back-to-back en série alors que tout le monde va avoir la chance de se reposer 48 heures en chaque match.
Là, c'est ton impatience qu'on entend quand tu dis ça. En fait, t'es impatient, t'as hâte que ça commence.
Oui, j'ai hâte que ça commence, okay, c'est sûr.
Mais je comprends l'histoire, mais clairement, là, un 2-2, pour avoir 6 jours de repos quand t'as eu 5 semaines avec 4 matchs pendant la semaine, je veux dire, un 2-2, pour moi, il n'y a aucun problème. Là. Ça vaut le pari pour un club de la Ligue nationale d'avoir cette période de repos-là avant d'entamer les séries, parce que, sincèrement, chez le Canadien, puis je sais que c'est pareil pour tout le monde, mais le Canadien, le calendrier a été horrible. On a vu le résultat, les gars. Écoute, au dernier match, là, avant-dernier match contre les Oilers d'Edmonton, là, Tyler Toffoli patinait, puis il tombait tout seul.
Il
n'y avait plus rien. Il n'y a plus rien, plus de jus, plus de gaz dans le tank.
C'est fini. Là.
Bon, fait qu'à partir de là, je pense qu'on est prêt à assumer un 2-2 quand on a eu tellement depuis le début de la saison, dans cette drôle de saison.
Oui, puis tu sais, les deux séries canadiennes, n'oubliez pas, là, c'est Montréal-Toronto, Edmonton-Winnipeg. Donc, c'est des séries où les déplacements entre les villes seront très, très, très raisonnables de toute façon. On fait les 2-2 dans la même ville. Tu sais, je pense quand même que c'est fait correctement, honnêtement. La seule chose que je m'explique pas, c'est pourquoi le Canadien, on le fait attendre jusqu'à jeudi au lieu d'avoir commencé le mardi. Tu sais, je veux dire, Toronto joue son dernier match ce soir, vendredi.
Non, je pense que c'est demain.
C'est Winnipeg.
Ou c'est Edmonton qui joue demain.
Exact, c'est ça. Donc, tu sais, Toronto finit aujourd'hui, ils auraient très bien pu commencer mardi, puis ensuite de ça, Edmonton-Winnipeg commence le mercredi. Et puis je sais que même aux Canadiens, il y a des gens qui ont été surpris de voir qu'ils commençaient aussi tard.
Peut-être
que
Toronto voulait aussi avoir une journée de plus, avoir un petit peu plus de repos. On a appelé, dit hey, nous autres, là, on a une Coupe Stanley à gagner. Là. Donnez-nous du repos, s'il vous plaît.
Simon Olivier, vite là-dessus, avant de conclure pour cette portion de l'émission.
Pas grand-chose à rajouter, sinon qu'effectivement, je pense que, en fait, c'est la même affaire, c'est-à-dire, je suis surpris que ça commence si tard, mais je pense que tout le monde va survivre, surtout après la saison qu'ils viennent de connaître, c'est un moins pas mal.
Ben, si jamais on se rend au match numéro 7 dans la division, dans la série, canadien Maple Leafs, et on se rend au match numéro 7 dans la division, dans la série Washington-Boston, il y aura 4 journées de différence entre les deux matchs numéro 7.
C'est bon, ils vont faire plus chaud. On va être capable de faire des hot dogs dehors. Ça va être super.
On fait pas le tailgate là, dehors là, cette année, dehors du Centre Bell, hein, d'après moi.
Je sais pas.
Bon, OK. On s'arrête le temps d'une courte pause. Au retour de ceci, les sujets ailleurs dans la Ligue nationale. Voilà, de retour maintenant avec les sujets ailleurs dans la Ligue nationale. Messieurs, quelle est la série autre que celle entre Montréal et Toronto qui vous intrigue le plus?
Vas-y, Guillaume.
Je vais commencer, mais moi, je pense que Boston-Washington, pour une raison ou une autre, c'est tout le temps, quand je regarde d'autres séries, c'est généralement plus les séries de l'Est, l'on dirait, sur lesquelles j'accroche, peut-être parce que des fois, ça mène trop tard dans l'Ouest. Mm-hmm. Donc, c'est ça, puis tu sais, Boston-Washington, c'est des équipes quand même qu'on voit depuis plusieurs années, année après année, en série. Je trouve que Chara, qui affronte son ancienne équipe, ça amène quand même...
C'est sûr,
ça amène des éléments intéressants. Les Bruins, j'ai hâte de les voir aller d'un peu plus près parce que moi, c'est une équipe que je m'attendais à les voir planter cette année. Là, vraiment,
c'est tellement
je suis
pas le cas, hein?
Excessivement surpris de voir comment ils ont,
hey, Taylor,
ils ont joué.
8 buts, 6 passes, 14 points en 16 matchs depuis qu'il était avec les Bruins.
Ouais.
Une machine.
C'est renversant comment ce gars-là, le changement d'air, l'a vraiment renversé. Donc, ouais, je pense que cette série-là, avec l'élément Chara puis avec ce que les Bruins ont accompli, ça va être intéressant.
Je convaincu que Simon-Olivier va parler des Panthers et Tampa Bay. Moi, je vais prendre les Hurricanes contre les Prédateurs de Nashville. Pourquoi les Hurricanes? Parce que ce club-là m'impressionne. Il y a du talent dans ce club-là. C'est une machine de hockey. Dans la série avec Nashville cette année, c'est 6-2 en faveur, 6-2 en faveur des Hurricanes. Et clairement, ce club-là, j'ai hâte de voir comment on va réagir avec la quantité de jeunes qu'on a là-dedans. Mais tu sais, si on regarde le Colorado en disant c'est l'équipe de l'avenir, faut regarder les Hurricanes de la Caroline parce que c'est tout un pick-up de hockey, là. Il y a du gros talent là-dedans. Fait que moi, les Hurricanes vont avoir vraiment un point d'intérêt pour moi dans les séries de fin de saison.
Simon Olivier.
Ben là, je sais pas si je devrais être heurté parce que de ma prévisibilité du fait que j'allais dire la Floride, je vais donc vous prendre à contre-pied et dire celle entre le Wild et les Knights de Vegas. En fait, c'est que tout pointe vers les Knights, étant donné la saison exceptionnelle qu'ils ont eue, étant donné la grosse machine de hockey. Le Wild a battu les Knights 5 fois en 8 matchs cette saison. Alors, ce sera pas une balade dans le parc pour nos amis à Vegas et on salue Max Pacioretty. Mm-hmm. Alors, je pense que puis le Wild, tu sais, c'est comme une équipe qui nous intéresse assez peu historiquement. Ouais. Le Canadien les voit pas souvent. C'est un peu inintéressant. Tu sais,
c'est pas eux que t'avais choisi dans notre article. C'est eux que t'avais choisi, hein.
Exact, c'est que dans notre rubrique Mauvaise conduite dans la presse où on fait des confidences un peu rigolotes chaque semaine, j'avais confié que le Wild du Minnesota m'intéressait pas pantoute depuis qu'il existe en Ligue nationale. Mais je pense que peut-être que c'est leur moment de briller contre les Knights, c'est là que ça se passe.
C'est une continuation des North Stars du Minnesota. Mais
est-ce que je peux dire d'abord, si Simon Olivier en a pas parlé, la série entre les Panthers et les Lightning?
C'est la mienne.
Hey, OK, bon, je te laisse aller là-dessus. Bon, je vais voler le poche à quelqu'un.
Autre que, tu sais, ce qui va se passer sur la glace, mais tu sais, je pense que Jonathan Huberdeau a besoin cette année de prendre ce step-là avec son équipe et démontrer que, regarde, c'est un joueur élite de la Ligue nationale puis qu'il est capable de transporter son équipe en série, de faire du dommage en séries éliminatoires. Vraiment battre leur bête noire qui est le Lightning de Tampa Bay. Pour moi, c'est une série et une rivalité un peu comme Montréal-Toronto qui est très importante pour la Ligue nationale. C'est plate, mais ça a jamais levé Tampa, la Floride. Et la Floride a tellement d'années à récupérer sur le succès du Lightning. Tampa Bay, là, tu t'en vas à Tampa, là, ouvre la radio, là, puis je veux dire, c'est du hard stove, il parle du Lightning à tous les jours. Là. Il t'aura pas de problème à tomber sur des discussions de hockey.
Et que ça met de la pression ces joueurs pour rien.
Ouais, mais tu sais, en gogoon puis avec sur le terrain de golf, après, c'est moins pire. C'est moins pire. Mais en Floride, ça n'a jamais levé. Moi, pour y être allé à plusieurs reprises, tu sais, je dis toujours, là, c'est plate à dire, mais les seuls qui portent des casquettes des Panthers, c'est les sans-abri. Tu sais, il y a quelqu'un qui leur donne des calottes, puis ils se les mettent. Ils sont gratis, parce que sinon, il n'y a personne qui achète des calottes des Panthers là-bas. C'est vrai, c'est la réalité, malheureusement. Donc, tu sais, il faut qu'ils... Ils lèvent leur jeu d'un cran. Il a été question aussi à un certain moment donné que les Panthers ne survivent pas, ne passent pas les prochaines années. On avait parlé de démolir leur amphithéâtre. Donc, c'est leur chance maintenant de démontrer qu'ils sont pour vrai, puis justement prendre du sérieux dans cette ligue-là. Maintenant, est-ce qu'il y a un joueur que vous aimeriez voir gagner la Coupe Stanley? Parce qu'à chaque année, il y a toujours un joueur qui est près de la retraite ou quoi que ce soit, qui n'a pas eu la chance de soulever la Coupe. Qui serait votre choix? Moi, j'en ai deux, là, mais je vous laisse y aller.
Ouais, tu veux que je commence? Caroline, écoutez bien ça, là.
Je pense que tu t'en vas dans la même direction que moi, mais vas-y.
Moi, j'aimerais voir Carey Price remporter la Coupe Stanley.
Oh.
Moi, j'aimerais voir Carey Price pour le voir en plein milieu de la patinoire, si on est capable d'avoir des spectateurs. Et d'imaginer tout le monde, les commentaires que tout le monde a eu sur Carey Price et que lui, à la Coupe Stanley au bout des bras, honnêtement, j'y souhaite ça. Je dis pas que ce gars-là a rien à se reprocher, a beaucoup de choses à se reprocher, mais à un moment donné, je trouve qu'on fait de l'acharnement sur Carey Price parce qu'on en a fait un demi-dieu avant même qu'il ait gardé un match avec le Canadien. Puis ça, c'est notre faute à nous. C'est nous qui avons mis des attentes qui étaient complètement démesurées par rapport à un joueur de hockey, à un gardien de but, un gars qui a des plus grosses pads que les autres, mais qui n'est pas un demi-dieu. Mais sincèrement, j'aimerais ça, voir ça. J'aimerais de mon vivant, avant qu'il prenne sa retraite. Et si c'est cette année, ben ça sera cette année, mais j'aimerais voir Carey Price remporter la Coupe cette année.
OK, Guillaume?
Moi, je prendrai pas un joueur. Moi, je vais prendre un entraîneur.
Okay.
Et je sais qu'il l'a déjà gagné, mais je suis peut-être plus rancunier que lui. Mais je comprends toujours pas pourquoi que Barry Trotz est parti des Capitals de Washington. Pourquoi les Capitals n'ont pas retenu Barry Trotz. Il gagne la coupe, ils le retiennent pas. Il s'en va avec les Islanders, qui est l'équipe un peu mal aimée de la ligue. Que tu sais, John Tavares les a fui aussi, ouais, tout ça, ouais. Tu sais. moi, de le voir en gagner une autre pendant justement que Tavares a toujours pas gagné de série avec les Maple Leafs. J'imagine qu'il va en gagner une cette année, mais il a même pas encore gagné de ronde éliminatoire à Toronto. Moi, je trouve que ça serait une belle justice. Barry Trotz est un des meilleurs entraîneurs de sa génération, mais parce que il a longtemps évolué dans des petits marchés, il a jamais eu nécessairement la reconnaissance qui venait avec.
C'est pas évident relancer une franchise qui est moribonde depuis autant d'années.
Ben c'est ça, exact. Puis là, les Islanders arrivent dans leur nouveau building. Je pense que ça va être bon pour la Ligue là, si les Islanders redeviennent une formation en santé, tout ça, dans un building, dans un aréna qui est un vrai aréna de hockey, tout ça. Ça préparerait bien le terrain, disons, pour peut-être la deuxième vie là, des Islanders.
Simon Olivier?
Moi, c'est Nathan MacKinnon. Que j'aimerais bien voir reconnaître du succès gagner la Coupe Stanley, dans la mesure où pour un joueur de sa trempe, ça va avoir l'air particulier ce que je veux dire, c'est pas évident de jouer dans la même ligue que Austin Matthews et Connor McDavid, alors qu'on tend presque à oublier à quel point Nathan MacKinnon est un joueur dominant, un joueur exceptionnel, et je crois que cette année c'est son tour, puis j'espère qu'il va connaître le succès qu'il mérite.
Moi, il y en a deux, les gars. Puis ça, je sais que je me ferai pas d'amis, mais Joe Thornton. Je pense que si Canadien se fait éliminer au premier tour, je vais me ranger derrière les Maple Leafs. Parce que, écoute, moi, c'est un joueur que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié, surtout dans ces années avec les Sharks. Les Bruins, moins, parce que là, il y avait la rivalité avec le Canadien. Mais tu sais, un joueur qui s'en va au temple de la renommée, qui a tout fait dans cette ligue-là, sauf gagner la Coupe Stanley. J'aimerais bien le voir prendre sa retraite. Aussi parce que je suis un peu tanné de le voir avec sa barbe. Tu sais, j'aimerais ça qu'il gagne la Coupe et qu'il dise « OK, c'est beau, je m'en vais, it's over ». L'autre, c'est Max Pacioretty. Parce que c'est un gars qu'on a sorti d'ici à coup de pied dans le derrière en disant que c'était un pas bon, c'était un bandit, c'était un voleur, c'était un menteur, c'était un tout. En tout cas, depuis qu'il est à Vegas, il n'y a pas grand monde qui chiale par rapport à la personne qui est Max Pacioretty. Donc, si jamais les Maple Leafs se font sortir, ben ça va être... moi, je vais me ranger derrière les Golden Knights de Vegas. J'aimerais ça voir Max gagner cette coupe-là.
Tu parles des Maple Leafs, mais je pense qu'il y a Jason Spezza aussi qui l'aurait pas volé. Écoute, ça m'a étonné quand j'ai fait de la recherche, mais il est rendu à 1176 matchs dans la Ligue. C'est quand même toute une carrière. Là, je disais, puis bon, je pense qu'il y a beaucoup de gens à Montréal qui ont appris à le détester dans les belles années de Spezza, Hitley et Alfredson, ouais. Qui terrorisaient complètement le Canadien. Mais ça, il a vraiment eu une super belle carrière, mais jamais vraiment eu de succès en série. Bon, ils ont été en finale en début de carrière contre Anaheim, ils ont perdu. Oui, je pense que lui, si les Leafs devaient gagner, ça serait une autre des belles histoires.
Bon, il y a toujours des surprises au premier tour. C'est inévitable. Quelle sera la surprise cette année? Qui veut se lancer en premier?
Je vous laisse aller.
c'est difficile.
Ben, en fait, ben moi, j'ai ouvert mon jeu tantôt avec la série entre le Minnesota et Vegas, mais je vais y aller d'une autre. J'ai prédit les Oilers d'Edmonton qui gagnaient contre les Jets de Winnipeg, mais je pense que les Jets pourraient causer la surprise. Les Jets, cette saison, ça a été justement, au risque de paraître un peu cucu, ça a été une boîte à surprise parce que quand on regarde leur top 6 en avant, il n'y a pas vraiment de raison que ce club-là n'ait pas été plus haut au classement, mais pourtant, ils ont un gardien dans la super élite de la Ligue. Ils ont un top 6 dévastateur. La défense, c'est un peu so-so, mais les Oilers sont tellement une équipe pleine de trous. Évidemment que McDavid et évidemment que Draisaitl, mais c'est une équipe qui est battable et je pense que même si on fait terminer 11 points derrière les Oilers, les Jets pourraient créer une des bonnes surprises du premier tour.
Moi, je vais y aller avec le Wild du Minnesota contre les Golden Knights de Vegas et n'allez pas à mise au jeu voter là-dessus parce que la première année que Vegas était là, j'ai dit qu'ils étaient pour se faire sortir au premier tour et ils ont été en finale de la Coupe Stanley. Donc, clairement, j'ai aucune crédibilité, mais le Wild du Minnesota pour l'ensemble, l'attitude que ce club-là a, malgré le fait qu'on a connu une fin de saison assez difficile avec 5 victoires, 3 défaites et 2 défaites en prolongation, dont d'ailleurs 2 défaites pour terminer l'année. Mais il y a du talent, il y a une bonne attitude, on se questionne un peu devant le filet, mais tu sais, Vegas, c'est pas une puissance en avantage numérique. Tu sais, si on dit que les unités spéciales sont toujours quelque chose à surveiller durant les séries, mais Vegas, c'est pas une puissance. 22e pour l'avantage numérique à 17,8% d'efficacité. Fait que donc, je me dis, si tu peux pas capitaliser sur ton avantage numérique à 5 contre 5, un club qui sait qu'affronte une puissance offensive va sûrement fermer le jeu. Fait que donc, je vais y aller avec le Wild du Minnesota face aux Golden Knights.
Surprise conservatrice pour moi parce que je sais que la division Est a été très serrée, mais quand même Islanders, tu sais, les Islanders ont fini quatrième de cette division-là, donc je reviens aux Islanders et à Barry Trotz, mais moi je m'attends à ce qu'ils battent les Penguins de Pittsburgh. Les équipes de Barry Trotz en série arrivent tout le temps excessivement bien préparées, et d'ailleurs, la dernière fois que Barry Trotz s'est fait sortir au premier tour, c'était en 2010 à Nashville. Depuis ce temps-là, deuxième tour, a raté les séries 2 ans avec Nashville, mais ensuite deuxième, Coupe Stanley, deuxième tour, et l'année passée, on sait, finale d'association. C'est un entraîneur qui coach, on dirait, en fonction des séries, qui a des équipes qui sont faites pour les séries.
Fait que tu penses que les Penguins se feraient sortir une troisième année de suite au premier tour?
Oui.
Tu sais que là, ça va amener vraiment un branle-bas de combat là-bas.
On dit ça
là.
Chaque année.
Ouais. Moi aussi, c'était mon choix, les Islanders contre les Pingouins. On verra, mais les Pingouins, ils se doivent de nous prouver qu'ils sont capables justement de rebondir en série parce que ça n'a pas été un succès dans les dernières années. Petite pause, les gars, et les questions du public au retour de ceci. Voilà maintenant au segment Les questions du public. On va commencer avec celle de Yann Plouffe. J'aimerais connaître votre opinion sur Joel Armia. Et il est quand même polarisant. Pour moi, il est primordial qu'il soit dans l'alignement. On en discute. Il y en a qui pensent que Caulfield pourrait être favorisé à Armia. Armia, c'est un valeureux soldat que je pense que Dominique Ducharme apprécie. Oui. Il a souvent bien parlé de lui. Rapidement, là, Armia.
Moi, je l'aime bien. Puis d'ailleurs, s'il y a un vétéran qui est en danger, moi, je pense, dans les attaquants établis, c'est peut-être plus Tatar qui a eu une fin de saison assez ordinaire et qui a déjà été laissé de côté. Donc, moi, tant qu'à moi, il est peut-être plus en danger qu'Armia. Armia, oui, moi aussi, j'adore ses habiletés, tout ça. La seule chose, ça reste quand même un joueur qui peut être vulnérable s'il s'endort le moindrement, parce que oui, Dominique Ducharme l'aime, mais tu sais, quand Armia est arrivé, ce qui faisait sa force, c'est qu'il était le seul gros attaquant que cette équipe-là avait. C'était une attaque qui était très petite, rappelez-vous, Max Domi était là aussi dans ce temps-là. C'était vraiment un petit groupe d'attaquants, ce qui n'est plus le cas maintenant. Tu sais, maintenant, là, t'as Josh, surtout cette année en série, t'as Anderson, t'as Stahl, Toffoli, qui est quand même pas petit, Suzuki qui est 5 pieds 11 mais qui est quand même 200 livres, tu sais, qui
est costaud, là.
Qui est quand même costaud, exactement. Kotkaniemi qui a une bonne carrure, tout ça, donc c'est plus là-dessus, il se distingue moins des autres, tu sais.
Puis Tatar, c'est parce qu'il est capable de te marquer un gros but quand t'en as besoin, c'est ça l'affaire. Il l'a prouvé dans les dernières années.
Ouais. Mais pas dans les dernières semaines. Ouais,
exactement.
What have you done for me lately?
Exactement. Ben moi, Armia, je pense que c'est une pièce essentielle au succès du Canadien. C'est un des seuls qui est capable de garder la rondelle en territoire offensif comme ça. Je veux dire, dans une courte zone, peut déjouer un joueur trois fois et garder possession de la rondelle. Puis t'as besoin de ça. Ça sera une guerre de tranchées. T'as besoin de son physique. Fait que donc, avant de penser à tasser Joel Armia, pour moi, le jeune Caulfield passe deuxième. Et comme Guillaume disait, Tatar est un point d'interrogation. Mais savez-vous quoi? J'ai l'impression qu'on va faire les choses de la bonne façon avec Dominique Ducharme. On remet les compteurs à zéro. On va donner à tout le monde la chance d'être là. Après, tu sais, c'est quand même long, une série 4-7. Mm-hmm. Oui, plusieurs pensent que le Canadien va se faire sortir en 3. Vous avez compris le principe, là, mais c'est quand même 4 matchs. Fait que t'as du temps en 4 matchs de faire des changements si t'en as besoin.
OK. Simon-Olivier, quelque chose à rajouter sur Armia?
Je pense que dans l'organigramme du Canadien présentement en attaque, il y a beaucoup d'éléments qui sont reliés. C'est-à-dire que quel rôle on va donner, par exemple, au trio de Jake Evans? Est-ce que ça va être justement le rôle de contrer, par exemple, le trio de John Tavares ou pas? Si on décide de donner un rôle plus effacé au trio d'Evans, ben peut-être qu'à ce moment-là, Byron et Lekkonen deviendraient des joueurs plus susceptibles de sortir de la formation. Cependant, si ces trois-là jouent ensemble, je pense que ça va être difficile, effectivement, comme on vient d'en parler, de rentrer et Tatar, et Armia, et Perry, et Caulfield. Ça commence à faire beaucoup de monde.
Ouais.
Je pense qu'Armia, effectivement, je pense que c'est un gars qui a apporté beaucoup. Je pense néanmoins que c'est un gars qui peut être remplaçable selon la manière dont la série évolue. Mais moi non plus, je ne ferais pas une religion de garder Cole Caulfield dans la formation.
Mais à Armia, par exemple, il y a un élément, c'est que Ducharme l'a utilisé sur les deux ailes à la fin de la saison. Il a semblé assez satisfait de ce qu'il apportait. Fait que ça pourrait être une carte dans son jeu, qu'a peut-être pas. Par exemple, Anderson a joué à droite pratiquement toute l'année. Perry a joué un peu sur les deux. Je pense qu'on préfère Caulfield à droite. Fait qu'Armia, c'est justement peut-être sa polyvalence qui va jouer pour lui à ce moment-là.
Ben, c'est justement la question de Philippe Ordenès qui nous demandait, peut-on vraiment sortir Caulfield de l'alignement? Simon-Olivier, Jérémy se sont déjà prononcés. Guillaume, là-dessus?
Ben, je pense que Dominique Ducharme a un petit peu préparé le terrain pour ça aussi. Quand tu as parlé du jeune là, dans ses derniers points de presse, on sentait qu'il mettait un petit peu les freins là, pis tout ça. Fait que je serais pas surpris qu'il commence dans les gradins, mais c'est une belle menace si on veut avoir dans les gradins. Si justement là je parlais de Tatar tantôt, c'est un Tatar Sandor, ben regarde, t'as une belle option dans les gradins. Pis c'est pas mal plus stimulant que si l'option qui attend dans les gradins c'est Michael Frolik là, tu sais.
Ah, clairement, mais tu sais, il faut savoir qu'une série au hockey, c'est comme un film. Ça va te prendre un dénouement, ça va prendre un moment donné un punch. Ça va te...
faut que tu
gardes... C'est ça, faut que tu gardes des munitions. Et d'avoir Caulfield, je pense que ça va juste permettre à un moment donné d'arriver avec un punch. Exemple, d'avoir Kéké qui rentre peut-être au deuxième match, au troisième match, ça va pas bien. Ça va. Mais si ça va bien, la série t'attends encore. Puis ces gars-là vont juste être plus en feu lorsqu'ils vont avoir la chance de revenir.
Tu le sors au Centre Bell quand t'as le dernier changement, exact. Tout ça. C'est sûr, mais c'est ça. Commencer à l'étranger sans le dernier changement, quand on sait que c'est ça que Caulfield... Bon, défensivement, il y a parfois eu des séquences plus difficiles. Peut-être qu'il va le faire attendre un petit peu.
On voit ça très rarement. C'est la question de Ali Balboa, mais croyez-vous qu'un système d'alternance entre Price et Allen serait possible et pourrait être bénéfique à l'équipe? Normalement, quand tu changes de gardien dans une série,
il y a jamais une bonne nouvelle.
Parce que ça va pas bien. Non. Là.
Non, mais tu sais que.
Non, mais tu sais, t'as deux matchs en deux soirs à un moment donné.
Je reviens avec nos collègues. Je reviens avec nos collègues ontariens.
TSN, ouais.
Oh, mais tu sais, on pourrait peut-être voir Campbell un match, un 2-2, peut-être.
Ouais, mais attends, la semaine prochaine, on va en parler de ça, les gardiens. Non, moi, je vous dis, les gars, écoutez-moi, là, je vais vous faire une prédiction, là. La situation des gardiens, là, et chez le Canadien et chez les Leafs, là, ça va être il va y avoir des histoires autour de ça.
Avant que ça commence, t'as raison.
Non, non, même
que ça va commencer, il n'y aura pas d'histoire.
Non, il va y avoir des matchs là, où on va se gratter la tête et on va se demander qu'est-ce qu'on fait. Deux matchs en deux soirs, il y a peut-être des gardiens qui vont connaître des contre-performances. Moi, je vous le dis, là, il va y avoir des éléments.
Mais si c'est ça,
préparez vos claviers, les gars. Là, parce que,
non, mais si c'est ça, ça va pas bien pour le Canadien. T'as garanti.
Mais le 2-2, moi, le 2-2, je me pose la question quand même.
Voilà.
Jamais dans 100 ans. Jamais Carey Price va permettre de laisser le filet à un autre, un 2-2 d'insérer
de la saison. Tu passes pas lui, le boss, c'est ça l'affaire.
Prends en début d'année, là, tu sais, regarde l'alternance qu'il y a eu entre Price et Allen toute la saison. Et si tu m'avais dit avant le début de la saison, ça va être ça, là, je dirais Allen, ça va être 1-3, puis des fois 1-2. Déjà ça, je l'aurais pas cru. Donc, tu sais, on a déjà établi un précédent. Je pense qu'on a fait comprendre à Price que qu'il y avait un partage qui était important. Puis, je veux dire, on en parlait tantôt, mais Allen et Price ont eu des statistiques à peu près comparables.
J'ai déjà hâte à l'émission de mercredi. Si bon, Olivier est là-dessus.
Je pense que ça va prendre deux contre-performances de Carey Price avant qu'on laisse aller à Allen. Je pense que si, par scénario fictif, Price se fait défoncer au premier match, je pense qu'on va peut-être lui laisser une chance. Je pense que ça va être un peu la règle des deux prises. Et à ce moment-là, Allen, je ne vois pas du tout arriver la rotation. Mais ce qui est certain, c'est que on n'en parle pas beaucoup, on ne le voit pas beaucoup, cet angle-là. C'est peut-être les deux marchés les plus chauds de la Ligue qui s'affrontent, où les équipes sont les plus scrutées, les plus surveillées. Fait que croyez-moi que les 40 joueurs en uniforme, chaque soir, vont avoir été évalués sous toutes les coutures. Fait que oui, il y a des histoires, des drames de gardiens, vont en avoir, de défenseurs, d'ailiers, tout ce que vous voulez. Je pense qu'on va beaucoup s'amuser.
Bon, dernière question, là, c'était une deuxième question de Philippe Ordonès, là, mais est-ce qu'on va avoir des partisans dans les estrades? Je pense qu'à Toronto, c'est peu probable. Ça va mieux quand même en Ontario, mais on est loin de la coupe aux lèvres. À Montréal, ça va quand même bien. Là. On est à Montréal, sur l'île de Montréal, là, on gravite entre les 170 et 200 cas par jour, là. Sur 2 millions de personnes.
On a reçu un communiqué de la Ligue nationale et du Canadien. C'est quand? C'est hier où le Canadien a été
certifié,
je sais pas le terme de la certification, comme étant l'amphithéâtre, le seul amphithéâtre au Canada sécuritaire et avec les procédures les mieux faites pour le virus et tout ça. Fait que donc, c'est pour moi, là, c'est pas innocent. Là. Ce qui se prépare, c'est pas innocent. C'est pas innocent d'avoir entendu le gouvernement parler de la possibilité de voir des gens dans les estrades, qu'on étudiait ça. C'est pas innocent.
Le premier ministre va parler mardi, soit dit en passant.
Bon, ben regarde.
François Legault.
C'est ça.
Puis moi, tout ce que j'entends, c'est que le Canadien a besoin de 24 heures. 24 heures, ils mettent des tickets à vendre, ils le build des
gros. C'est pas trop compliqué. Je dis pas qu'il y aura peut-être pas 10 000 personnes, là. Mm. Mais, tu sais, est-ce qu'il y aura 5 000? J'ai aucune idée. 2 500?
Ouais.
Je sais pas, mais il va y avoir du monde dans le bâtiment. Selon moi, là. Puis je le souhaite. Oh, je le souhaite.
Intéressant.
La certification, c'est G-Back Star, le nom exact de la certification qu'on cherchait. Donc, non, c'est ça, effectivement.
Mais G-Back Star.
Mais, tu sais, la seule chose, faut pas mélanger, par contre, le Canadien qui met ça de l'avant, cette certification-là, avec les intentions du gouvernement.
Ouais.
Le Canadien est un peu en campagne aussi là, pour avoir des gens, mais tu sais, faut pas oublier qu'on a encore un couvre-feu à Montréal. Je verrais mal de permettre d'avoir des gens au Centre Bell quand tu es en situation de couvre-feu.
Donc,
et que ces gens-là vont comme briser le couvre-feu.
Revenons à ce que Philo a dit. S'il y a point de presse du premier ministre Legault mardi.
Et les premiers matchs au Centre Bell sont la semaine suivante.
Il nous a dit qu'il était pour annoncer une certaine forme de déconfinement. Je pense que les couleurs de région vont changer. Je pense que le couvre-feu va changer. C'est là qu'on va pouvoir, à mon avis, ça faufiler.
Les
là-dedans.
Couleurs vont changer pour du bleu, blanc, rouge.
Exact.
Simon Olivier, le dernier mot.
J'ai le dernier mot après ta chanson, mon Dieu. peu à rajouter, sinon, comme a dit Guillaume, que le Canadien est très clairement en campagne. Oui, la certification que personne connaît, pour qu'on a comme flashé comme ça pour dire, voyez comme on est prêt. France Margaret Bélanger qui a donné des entrevues beaucoup cette semaine où elle a répété à plusieurs médias, y compris la presse, Radio-Canada, etc., que le Canadien était prêt à recevoir des spectateurs. Mm-hmm. Fait qu'on attend le feu vert. Je serais pas étonné que ça arrive, mais moi, je vois, en tout cas, personnellement, je vois pas ça comme un must, mais non, je serais pas surpris que ça se passe.
Moi, je peux te dire que les joueurs seraient extrêmement contents d'avoir des spectateurs dans les estrades.
C'est sûr. Je pense à ça, là, vite. Là, je fais un parallèle. Demain soir, à Atlanta, là, l'Impact de Montréal va jouer devant 42 500 personnes au Mercedes-Benz Stadium. Ils ont-tu hâte, tu penses, les joueurs, de jouer devant des foules? Même si c'est pas leur foule, ça fait rien. Ils vont prendre n'importe qui dans les estrades. Tant qu'il y a du monde, puis que le party est pogné un petit peu dans le stade, ça va être ça. Donc, très hâte de regarder
j'espère
ça.
J'espère que tout le monde est vacciné, parce que sinon, t'es sur le terrain, retiens ton souffle pendant 90 minutes, ça va être longtemps.
Ben, ils sont tous vaccinés deux fois.
Ah, okay,
les
bon,
joueurs et les équipes, tout le monde est vacciné deux fois. Alors, les gars, merci beaucoup. Passez un beau week-end. On va vous souhaiter des bons premiers matchs éliminatoires. On vous rappelle, ça commence mercredi pour nous, le prochain podcast. On va avoir un horaire un peu particulier. On va s'ajuster avec les calendriers des séries éliminatoires, surtout pour ceux du Canadien de Montréal. Donc, Simon-Olivier Lorange, Guillaume Lefrançois, Jérémy Rainville, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à Maxime P. Paquette à la mise en onde. Mon nom, c'est Jérémy Filosa. Bon week-end et à la semaine prochaine. Salut!